Bienvenue sur Nu Radio, on vous l'a annoncé cette semaine, on reçoit un invité aujourd'hui en studio. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais en tout cas vous allez reconnaître sa voix, ça c'est certain. C'est Jérôme Powels qui est avec nous aujourd'hui en studio. Comment ça va Jérôme?
Écoute, ça va très très bien, merci de me recevoir Laurent.
Merci à toi d'être venu dans les studios de Néo Radio. On va parler un petit peu de ton parcours, on va parler de tout ce que tu fais, parce que tu fais plein de choses. Mais la première chose à faire, c'est qu'on vous passe les extraits de ce que Jérôme fait.
Mesdames et messieurs,
pour notre dernier tour,
nous allons cambrioler une banque. À trois, vous allez être téléportés à travers l'espace et le temps à l'intérieur de votre banque à Paris. Un, deux, trois. Certains ont perdu leur maison, leur voiture. Et ce soir,
nous allons vous restituer une partie de votre argent.
Mais foutez pas de moi, c'est du chiquet.
Bien, je vous en prie, j'aimerais voir ça.
Allez-y.
J'y vais?
Ouais.
Ok.
Attention, ça va faire mal.
Clint, la semaine a été rude, on vous en voudra pas si vous n'arrivez pas à assurer.
Vous oubliez que j'ai vu comment vous faites. Et je sais toujours pas comment vous faites.
Mon silence est assez éloquent.
Et je vous en prie, venez, montrez-nous.
Bien, s'il te plaît.
Alors, l'homme que la DEA voulait le plus a réussi non seulement à éviter la prison à perpétuité, mais apparemment à se faire payer par le gouvernement. Il a reconnu sous serment avoir introduit des tonnes de cocaïne aux États-Unis chaque jour. Pour ces types.
Qui donc?
Des gars au gouvernement, ou avec eux, ou au moins ils ont accepté de regarder ailleurs. Shazam! Sans doute, mais tu oublies à qui tu parles. Seul peut-être pas, mais si on s'y met tous, alors là!
Il nous reste combien de temps?
Quelques semaines.
Non, non, doucement.
T'es quoi au juste? T'es en train de penser au robot? Moi aussi, je voudrais qu'il soit là.
Je vous en prie, arrêtez! Oh non, non! Arrêtez, c'est vous qu'il faut applaudir! C'est vous les héros!
Vous, monsieur. C'est vous.
Messieurs?
Je vous en prie, arrêtez!
C'était devant moi, je l'ai tué à nouveau. Ça, c'est du cinéma. Du blabla, con. Cette théorie de merde, comme quoi je suis rien, je suis pas un dingue. Je l'ai jamais été. C'est clair, messieurs. Je sais ce que je fais. Je sais qui je suis. Et je sais que j'y pense. Je suis trop moi, je l'ai tué. Vous m'avez surnommé le Punisher et vous avez raison. J'ai pas la voix de pitié. Vous voulez savoir qui j'étais? Ma maison, vous le savez.
Le Punisher.
Mais c'est faux.
Bon, Lono, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Ça n'a rien à voir avec vous. 12 gosses ont disparu et on veut retrouver le coupable.
Je suis au courant de rien, je vous dis. J'ai rien à cacher, je suis à méconnaître.
Oh, un honnête homme. Génial. Bah, puisque vous n'avez rien à cacher, veuillez s'il vous plaît ouvrir cette porte. Hein? Comme on ne trouvera pas de marchandises volées, on saura que vous n'êtes pas en business avec les pirates. Et ensuite, on s'en ira.
Pas question.
Elle était pourtant simple, votre tâche.
J'ai jamais voulu faire tuer quelqu'un, il doit le savoir.
Mais de quoi tu parles? Qui doit le savoir?
Snow, il est venu me trouver. Il s'inquiète à propos des rébellions dans les districts et il dit que les gens ne croient pas assez à notre histoire.
Tu aurais dû me le dire avant que j'offre de l'argent à ces pauvres
Désolé,
gens.
Désolée, je savais pas quoi faire.
Mais à quoi est-ce que t'as pensé?
Emmett, s'il vous plaît, aidez-moi à supporter cette tournée. S'il vous plaît, aidez-nous à nous en sortir.
Une tournée? Mais réveille-toi, ma fille. Ça finira pas en rentrant chez vous, car jamais vous descendrez de ce train. Vous êtes des mentors à présent. Ça veut dire que chaque année, on vous sortira des oubliettes et on filmera tous les détails de votre histoire d'amour. Ça va? Bon. Je suis la terreur qui corrige les erreurs. Je suis à la justice ce que la sardine est à l'huile. Je suis Mister Mask. On n'a pas le temps de s'amuser. Alors passons à la version la plus courte.
Avec une émulsion foie gras, de prendre.
Bonjour, ça va?
Quoi?
Je te dérange pas, Patrick Juvet, tu veux un café? Tiens, fais voir ça.
Quoi?
Je suis lourd, toi. Viens là. Vas-y, lis.
Prière de me pas se lâcher.
Plus fort, j'entends pas.
prière de pastasie.
C'est la bonne méthode,
ça. Lis tout.
Emplacement réservé.
Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Allez, hop. Allez, vas-y, casse-toi.
Et voilà quelques extraits de notre invité Jérôme Pauwels, que vous avez découvert d'ailleurs juste à la fin en tant qu'acteur, parce que il est comédien, doubleur, post-synchronisation. C'était justement ma première question. Comment on dit Jérôme? On dit un doubleur, un comédien?
On va dire un comédien tout court. Et pour parler de notre spécialisation, on va dire des comédiens de doublage. On fait de la post-synchro, c'est ce qui se passe après un tournage.
Ouais.
Quand on vient réenregistrer des voix qui sont en direct, enfin qu'on n'a pas réussi à prendre pendant qu'on tournait le film. Donc ça c'est la post-synchronisation des voix. Donc c'est le film qui est en version française et qu'on vient réenregistrer avec des voix françaises derrière. Le doublage c'est spécifiquement pour les films étrangers, anglais, allemand, espagnol, etc.
D'accord. Mmh. Et justement, pour être doubleur ou comédien, tu as une formation artistique, mais toi, tu es comédien à la base.
Oui, bien sûr. Ah, de toute façon, il faut absolument être comédien. Il n'est pas concevable, sous prétexte qu'on a une voix ou qu'on parle bien dans un micro, de se présenter et de se dire, non, je vais faire du doublage. Non, faut être comédien. On a tous des formations différentes, certes, mais de comédien classique, et c'est à la lumière de cette expérience-là et de ce savoir-faire-là qu'on finit par faire du doublage. Et reste ceux à qui ça plaît, en fait, parce que il y en a, ouais, tout le monde, ça plaît pas à tout le monde. Faut se dire que pendant toutes nos études notre pratique d'apprentissage de la comédie et du théâtre, tu viens un peu pour récupérer des applaudissements, avoir un peu des lumières qui sont dirigées vers toi, ou si c'est pas des lumières, au moins l'objectif d'une caméra. Là, en doublage, t'es sûr d'avoir ni l'un ni l'autre.
Ouais. Ouais, c'est certain.
Devrais totalement seul, dans le noir, sans applaudissements aucun, et que le plus beau compliment qu'on pourrait te faire, c'est « t'étais génial, je t'ai pas reconnu ». Donc, tous les comédiens, ça leur plaît pas. Donc, tout le monde en fait, peu ou prou, à un moment ou à un autre dans son existence, parce que c'est rigolo, parce que c'est une expérience à tenter, parce que c'est une vraie discipline de vie et une vraie discipline de la comédie, mais tout le monde reste pas pour toutes ces raisons-là.
D'accord. Et comment tu en es arrivé à faire du doublage? C'est arrivé par hasard ou c'était une suite logique à ta carrière?
Non, c'était totalement par hasard. Je jouais un Fedo à Paris depuis 3 mois et puis ça marchait plutôt pas mal. Il y a eu un directeur de casting spécifiquement doublage qui est venu assister au truc. Il m'avait laissé un message. J'ai pas eu l'occasion de le recontacter à ce moment-là. Puis je l'ai rencontré totalement par hasard dans une soirée 15 jours plus tard. Et c'est là qu'il a fait ouais, mais enfin, je t'ai écrit, je t'ai laissé un message. J'étais attendu à la sortie des artistes, t'es pas venu, machin. Et est-ce que tu vas venir faire du doublage demain? Ce serait trop bête de laisser passer l'occasion. Et en fait, le lendemain, précisément, c'était un film qui s'appelait La Rançon avec Mel Gibson.
Oui, il y a déjà longtemps.
Mais tu parles à une vieille personne, Laurent. et voilà. Et j'avais un tout petit rôle, le premier tout petit rôle en doublage à faire dans La Rançon. Et c'est là que, en entrant dans ce studio, eux, ils étaient en train de poursuivre quelques scènes du film, et il y avait Richard Darbois, qui est un des monstres sacrés du doublage, qui donnait la réplique à Jacques Franz, qui est un autre pilier formidable de ce métier, et en écoutant leur voix, la beauté de leur timbre, la pertinence de ce qu'ils faisaient dans cet environnement qui était d'un luxe totalement élysée, hein. Moi j'habitais dans un 16 mètres carrés en soupente, si tu veux, donc en arrivant dans ce studio force formidable, je me suis fait oh là là, je vais rester là, moi. Moi, je veux faire comme ces gens. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Donc, c'était vraiment par hasard. Si je n'avais pas re-rencontré cette personne dans une soirée, ça n'aurait pas eu lieu. Ou alors, ça aurait lieu, mais autrement. Ou plus tard.
Oui, c'est vrai que c'est un métier. Et justement, les acteurs que tu doubles principalement, donc pour les citer, ceux qu'on les a vus à l'image, donc il y a Jérémy Renner dans Avenger, Œil de Faucon, Hawkeye, aussi dans Jason Bourne et d'autres films, American Bluff, Secret d'État, Hansel et Gretel, Mission Impossible, etc. Moi, c'est dans mes préférés que tu doubles.
C'est vrai, Jérémy Renner.
Ouais, j'aime bien. Ensuite,
Sean William Scott.
Ouais, voilà, avec mon bel accent. Les gens ne connaissent pas forcément son nom, et pourtant, c'est lui, c'est Stifler, dans Sheriff Fais-moi peur, dans d'autres séries aussi, hein, voilà, il double plein de choses aussi. Woody Harrelson, voilà. Woody. On le connaît bien aussi dans Hunger Games, Insaisissable, qu'on a vu d'ailleurs dans l'extrait tout à l'heure, La Planète des Singes, tu doubles Carnage. Il joue Carnage dans Venom, mais c'est dans le 2, je crois qu'on le voit à la fin, dans une scène post-générique.
Oui, c'est ça.
Donc, on le voit aussi là-dedans. Mm-hmm. Yon Bertal, eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surtout dans Le Punisher. Voilà, on le connaît surtout grâce à ça. Il joue dans The Walking Dead, ouais. Il a joué des personnages dans Infiltré. Le Loup de Wall Street, George Garcia, est plutôt connu dans Lost. Ouais. Voilà, c'est la série qu'il a révélée d'ailleurs.
Et Once Upon a Time, oui. Et une autre petite série qui a pas très bien marché. Je sais pas si elle a été diffusée ou pas sur. Alors, est-ce que ça s'appelait Alcatraz ou Neo Alcatraz ou je sais pas quoi Alcatraz ou Alcatraz 2.0
Oui, oui.
C'était très, 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 très bien. Et très rigolo.
Il joue aussi dans Californication et je crois que c'était un dealer de drogue, je crois, dans cette série-là.
Absolument.
Alors.
Sauf qu'il est arrivé dans Hawaii 5.0 aussi.
Il joue dans cette série-là.
Mais oui.
Ah,
et j'en faisais déjà une autre.
Ah oui.
Donc on a demandé, ils ont fait passer des essais, et demandé à quelqu'un d'autre de venir le faire. Ouais. Un autre collègue et pratiquement j'ai eu le droit une fois sur les 7 ans où il a œuvré dans Hawaii 5.0 l'ami Garcia, j'ai eu une fois le droit de lui dire, alors c'était pas écrit dans le texte, mais de lui dire, dis donc t'as une drôle de voix toi.
Ah oui, donc c'est
une vraiment... petite blague pour ceux qui savent.
Alors après il y avait donc David Wenham,
ouais.
Le fameux Faramir dans Le Seigneur des Anneaux, mm-hmm. Matt Jones, Breaking Bad, NCIS Enquête Spéciale. Voilà. Steve Zahn,
ah ouais.
Dans Monk, dans Modern Family, donc il est vraiment déjà très loin, et The Ridiculous 6.
J'ai Trémé, une série musicale, peut-être que, je sais pas si tu la connais, donc c'est Trémé, c'est, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, juste après le passage de l'ouragan Katrina.
Oui.
Ils sont tous très désespérés, très sans le sou, etc. Et c'est comment le jazz, la musique, parvient à réveiller l'esprit de la Nouvelle-Orléans. Et le type, Steve Zahn, ça va forcément te parler, Laurent, parce que il est animateur de radio.
Ah, et
oui.
Ah, mais voilà.
C'est très, très drôle.
C'est
très
noté.
Ah, oui, oui.
C'est noté comme ça, je regarderai. C'est une série, hein, c'est ça. Hein.
Ah, voilà. C'est une série parfaite. Elle est vraiment très, très bien.
Et justement, bah, j'ai pas tout cité parce qu'il y en a énormément d'autres. Mmh. Il y en a des connus, des moins connus aussi. Mmh. Quel est le personnage que tu as préféré doubler, enfin, ou lequel préfères-tu doubler en général? Un coup de cœur. C'est la question.
Oh, alors Woody Harrelson est très agréable à doubler parce qu'il à chaque fois il fait des films tellement différents d'une fois à l'autre. Il se livre absolument totalement. Il a pas de retenue. Il est vraiment, c'est un acteur entier total qui se livre entièrement et c'est très 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 agréable à faire. Et ça, ce mec-là, ce comédien-là me plaît vraiment à faire. Le Jeremy Renner aussi, c'est un délice à faire parce qu'il est, il a l'œil qui frisote comme ça parfois et moi j'ai dans la voix un petit truc qui frisote et j'aime bien faire frisoter ma voix en même temps que son œil frisote. Mmh. et voilà, mais ils sont tous rigolos à faire, ils sont tous.
Bah, celui qui double le plus. Quoi. Je crois que c'est Jeremy Renner que tu doubles le plus avec peut-être Woody Harrelson.
Ouais.
Ouais, dans les plus les questions que j'ai mis, est-ce que tu les as déjà rencontrés?
Non,
aucun.
Non. On nous avait, bah ouais, c'est ballot. On nous avait arrangé une entrevue avec David Wenham et malheureusement j'ai pas pu y aller. C'était une espèce de convention comme on fait maintenant, tu sais.
Oui, les Comic Con, des choses comme ça.
C'est ça, des trucs spécialisés dans les. Voilà. Et non, j'en ai rencontré aucun.
Tu aimerais les rencontrer?
Oui, bien sûr.
Voilà, faites entrer Jérémy. Ah, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas assez de mon bras n'est pas encore assez long.
ouais, non, c'est bien sûr, ce serait rigolo de les rencontrer.
Alors, puis tu as aussi fait des films d'animation,
oui.
Énormément.
Je
vais en citer quelques-uns parce que j'ai ma liste là, mais il y a entre autres Le Monde de Dory, j'ai pris les plus connus, La Ligue des Justiciers, Batman, l'Alliance des Héros, Batman The Dark Knight Return où tu joues Harvey Dent, Ben 10, la série, la bande à Picsou, Souris City, etc. Question par rapport au doublage de ça, quelle est la différence entre un film et un film d'animation? Tu t'amuses plus forcément dans l'un et dans l'autre?
L'amusement, il est présent à chaque fois. Jouer, c'est contenu dans le nom. Hein, notre métier, c'est jouer. Donc jouer, c'est de toute façon marrant. Il y a une liberté totale qui est qui est présente quand tu fais des films d'animation. Alors eux leur technique elle est la suivante. Aux Américains, ils enregistrent d'abord les voix comme on est en train de le faire là, mm-hmm. et ensuite ils font les dessins. Donc ils se mettent grosso modo, ils font les animations des petits personnages. Donc ils se mettent à une dizaine de personnes en fait pour fabriquer toute la personnalité du cartoon. Et nous, donc on vient après en français avec notre propre personnalité et on a des choses à faire qui sont absolument magiques, totalement complètes, avec des finesses, des subtilités, et tout ça étant dans notre langue, souvent très très bien adapté, il faut le dire aussi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a comme le labial, on va dire, qu'on voit, faut que ça corresponde.
Et c'est souvent pour ces immenses films-là, extrêmement bien fait, extrêmement pertinent et surtout extrêmement drôle. Et on nous laisse, du coup, la liberté totale de faire ce qu'on veut, d'en rajouter un petit peu, d'en retrancher, de faire comme on se sent. Donc, on se sent vraiment très, très libre parce que le cadre est extrêmement subtil, extrêmement parfait, extrêmement bien fait.
D'accord. Ouais. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, comment on peut imaginer une séance de doublage, que ce soit un film ou un film d'animation? Donc t'es en studio forcément.
Ah ouais.
Comment ça se passe, d'un point de vue général?
Il fait noir, c'est grand. Ouais. Il y a un immense écran qui est de la taille d'un écran de cinéma, qui a peut-être une quinzaine de mètres de toi. Juste en dessous, sur un mètre vingt, la bande rythmo passe, c'est-à-dire le texte en français, extrêmement bien cadencé, au 1/25e de seconde près.
D'accord. Donc, il y a une ligne rouge, il faut parler à la ligne rouge.
Il faut exactement parler à la ligne rouge et pas déborder du coloriage parce que sinon ça se voit vite et ça s'entend à l'écran. Donc, tu vois, t'as évidemment une connaissance superficielle du film. T'as rarement l'occasion de l'avoir vu avant.
Oui.
Puisque les images maintenant sont protégées, surprotégées, etc., etc. Donc, mais il y a quelqu'un qui, de toute façon, est là pour te faire un petit pitch et t'expliquer qui fait quoi, expliquer si tu fais Rembrandt ou la Duchesse et puis tu le vois autant de fois que tu veux en version originale, donc avec les
il y a quand même la version anglaise avant.
Tu prends tes appuis, tu comprends et en tout cas t'interprètes ce que l'acteur à l'image a voulu faire, et charge à toi de le traduire avec ta voix, avec tes intentions, et à t'abandonner le plus librement possible dans le cadre fixé par le début, la fin de la phrase du mec, le texte qu'il y a à dire, et puis ses intentions.
C'est du travail.
Ah ouais, c'est du boulot. Ouais,
j'imagine bien. Mais justement, comment ça se passe d'un point de vue sortie, parce qu'on voit un film, nous, un film qui sortirait aujourd'hui, combien de temps avant c'est doublé? Longtemps ou...
Il y a eu une époque où c'était pratiquement un mois avant. Aujourd'hui et maintenant, c'est 15 jours.
Ah oui,
les sorties, elles sont mondiales, tout est calibré. Le film doit sortir le même jour dans à peu près tous les pays où il va être diffusé. Donc, toutes les versions sont centralisées et conçues et mixées et enregistrées pratiquement ensemble. Donc, chaque studio, l'Italie, elle envoie ses bandes pour le lundi, tu vois, par exemple. Et le film va sortir le lundi suivant ou le lundi en 8, quoi.
D'accord.
Et voilà, et tout est...
Maintenant, tout est numérique aussi, donc il n'y a plus des bandes. Ça a changé.
Mais ça va très, 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 très vite. Ça va très, très vite. Et avec les histoires de plateforme aussi.
Oui.
Où toute la saison passe en même temps. C'est-à-dire, on va pas nommer les plateformes, mais sur toutes les plateformes qu'il y a maintenant, on va livrer la totalité de la saison en même temps. Et donc, on fait ça avec un rythme extrêmement soutenu et peut-être 15 jours, 3 semaines avant que ce soit mis sur le réseau.
D'accord. Mm-hmm. Et justement, par rapport aux plateformes, parce que ça fait penser aux plateformes de streaming, pendant le confinement, tout a été arrêté, tout a été vraiment arrêté, même...
Suspendu, total.
Tu bossais pas de chez toi non plus.
Ils ont tenté, je sais que quelques sociétés ont tenté de remplir leur programme avec du doublage fait à la maison, mais au dire de ceux qui l'ont entendu, c'était absolument inécoutable.
La qualité d'un studio.
Il n'y a pas la qualité d'un studio, déjà, techniquement. Et puis, il faut aussi être porté par un instant, quoi. Il n'y a pas que les comédiens qui sont là pour doubler face au micro, il y a aussi un directeur artistique qui est là, qui met en condition, qui a une vision parfaitement aiguë et précise de la totalité du film et du produit à faire. Donc c'est autant d'arguments et d'éléments pour mettre le comédien dans l'ambiance, lui faire obtenir de lui quelques des subtilités, etc. Que lui, s'il est tout seul face à son écran, il fait pour un bien, j'ai envie de dire, mais pour un bien, c'est pas forcément le bien. Donc il y a au-dessus de nous et des comédiens, il y a la direction artistique qui se charge de rendre ça encore mieux que bien.
Et combien de temps ça dure un doublage? Un film d'une heure et demie, c'est une heure et demie de doublage ou alors non, pas du tout, c'est 3 jours, 4 jours?
Non, on fait pratiquement. Attends. Faut compter une dizaine de jours pour un 90 minutes. Avec tous les protagonistes en même temps, c'est-à-dire compte tenu de tous les comédiens qui viennent. Toi, tu vas faire que ta partie. C'est-à-dire, si je fais Rembrandt, je vais faire que les scènes où il y a Rembrandt, mais c'est pas la totalité du film. Donc, sur 10 jours, entre les flics, les paramédics 12, parce que c'est un paramédic 12.
Le nom,
c'est
non?
C'est un nom de code chez nous.
D'accord.
Dans le village, paramédic 12. C'est l'infirmier qui arrive, qui descend juste après l'accident et puis qui dit, comment ça va, docteur? C'est tout ce qu'il fait. Mais il faut qu'il soit là, il faut qu'il parle en français. Donc, il y a les paramédics 12, faut le faire venir. Souvent, c'est le gars, le même qui.
C'est le technicien, en fait, qui est là dans le couloir.
Non, c'est des vrais comédiens.
Ah, d'accord, ok.
Si tu donnes ça à quelqu'un qui est pas comédien, tu t'en rends compte tout de suite.
Ah oui,
mais souvent, c'est le même qui va faire serveur après. Un petit peu d'eau plate ou pétillante, madame. Voilà. Et donc, c'est des petits rôles et des petites ambiances.
T'en as fait aussi, d'ailleurs.
Mon Dieu, mais tu commences par ça.
Ah oui, on se rend pas compte de tout ce qu'on peut faire dans le doublage avec les petites voix qui, en plus, il est faux.
Et c'est indispensable.
Indispensable.
Sinon, la magie n'opère pas.
Et question, justement, tu parlais de directeur artistique, mais je pense que la réponse est dans la question. Qui choisit les voix sur les films ou sur les séries? Enfin, qui choisit la voix? Quand on t'a choisi pour Jérémy Renner et ainsi de suite, c'est, y a quelqu'un qui chapeaute tout ça?
Ah oui. C'est, en fonction du diffuseur. Une société de distribution, peu importe, Disney, Warner, n'importe quoi, a comme projet de proposer un film en français. C'est elle qui décide des comédiens français qui vont doubler X ou Y personnes. Avant cela, il y aura des essais. Le directeur artistique, celui à qui on aura demandé la supervision artistique du produit, le directeur artistique va dire, écoute, moi, sur ce mec-là, je vois bien Jocelyne, Jean-François et Michael. Et il fait passer les essais à, donc, une petite bande de, une petite scène de 5 minutes, où, tout le monde passe chacun son tour sur le même personnage et essaye la voix. Et à ce moment-là, on envoie, aux clients, aux grosses majors qui choisissent. Parfois, c'est eux qui choisissent, les services commerciaux ou l'antenne France qui choisit. Ou parfois, c'est directement le réalisateur, ce qui est arrivé avec Le Seigneur des Anneaux.
Oui.
C'est le réal.
Donc vraiment le réalisateur du film qui voit les voix étrangères.
Qui écoute et qui met un petit mot. Dans Tintin aussi, Spielberg avait envoyé des avis sur toutes les voix qu'il avait reçues, des trucs personnels.
Ils sont impliqués. Quoi.
Mais c'est leur bébé, attends. Ah. C'est ça. Ça plaisante pas. Et c'est une manière de respecter tout le monde, quoi. De dire non.
On se sent valorisé. Quand en tant que comédien, c'est bien.
Oui, si. Tu sens que tu fais partie de quelque chose où tout le monde donne le maximum de ce qu'il peut et puis vise la qualité. Ouais.
Est-ce qu'il y a pas du coup un contrat d'exclusivité? Comme toi, tu doubles tel acteur et ce sera toujours toi à vie?
Non.
Il y a d'autres comédiens, je crois, qui l'ont eu.
Poivet l'avait.
Poivet, c'est Bruce Willis, pour les auditeurs qui nous écoutent.
Patrick, il l'avait parce que c'était Bruce Willis qui avait demandé
lui-même
personnellement par contrat, si jamais ce film-là va finir sur quelques écrans français, I want that it is Patrick Poivet qui double ma voix.
Il l'avait rencontré aussi assez régulièrement, l'avoir fréquenté aussi à un moment.
À ma connaissance, c'est arrivé 2 fois dans l'histoire de notre métier. La première, c'était Tony Curtis avec Michel Roux.
Oui.
qui lui aussi avait demandé, parce que Tony Curtis en VO, il a plutôt une voix soporifique, et Michel Roux, votre Altesse, il est un peu pris sautier comme ça.
Ah, d'accord.
Et Patrick Poivet, c'est le deuxième cas. Sinon, c'est qu'un gentleman agreement. Donc, c'est un respect. Moi, je pense que c'est une histoire de respect qu'on a du public. Que de une fois que quelqu'un commence à être un peu connu, qu'il a une voix un peu identifiée, c'est une histoire de respect pour les gens qui viendront voir le film que de garder la même voix. Donc ça ne se passe pas avec des contrats d'exclusivité, c'est que du gentleman agreement.
Ce qui est bien, après la plupart des comédiens ont toujours la même voix. C'est très très rare que ça change. Ouais.
Il y a de temps en temps des dangereux psychopathes qui décident qu'il faut changer. Ils avaient changé Bruce Willis
sur le cinquième élément. C'est la seule fois, je crois.
C'est Besson qui avait décidé de changer pour une raison qui lui appartient.
Ouais.
Mais c'est comme ça.
Ouais, bah ça arrive parfois.
Et après l'autre il a fait bon. Alors, tu arrêtes tout de suite de changer la voix, Bruce.
J'imagine. Ouais. Question bête, mais que je trouve intéressante.
On va y répondre. Regarde, intelligence.
Regardes-tu ce que tu doubles avec ta voix? Avec regardes-tu en français? Voilà. Non. Une fois que je sais pas, le Avengers est sorti avec Jérémy Renner, que tu regardes après?
Non. Alors la vérité m'oblige à le dire. Dans The Boys, on a regardé avec mon épouse The Boys la semaine dernière. Il y avait une scène où j'ai dit, est-ce que je peux le mettre en français? Elle fait, mais oui, je te demande que ça, de le mettre en français tout à l'heure. Oui, bon, d'accord. Et j'ai regardé une scène pour vérifier. Pour vérifier un peu.
Ouais, si ton travail était bien fait.
Si ça passe bien, mais oui. Si c'est bien mixé aussi. Il y a un truc, il y a une donnée qui est extrêmement importante, c'est le mixage. Toi, tu livres tout ce que t'as fait des inflexions, des pleins, des déliés, des machins, et des gros cris. Et puis, le mixage, il a tout rapproché, pom, et tout est plaqué, tout est vilain. Donc, ça vaut le coup de contrôler un petit peu, ce qu'on a fait avec la performance.
Ouais. Est-ce que t'es reconnu?
Mais c'est très très rare.
Est-ce que t'es reconnu dans la rue? Est-ce que les gens reconnaissent à ta voix?
Ça arrive parfois.
Parce que tu fais aussi parfois,
les jeunes gens. Dans la rue, c'est extrêmement rare.
Quand
t'es
au restaurant, quand t'entends.
Mais si au restaurant, ça arrive.
Voilà. Et tu signes des autographes à ce moment-là?
Oui, tu signes des autographes. Il m'est arrivé une bonne, je sais pas si on peut la raconter.
Oui, mais une anecdote, c'est toujours bien.
Mais oui, c'est un samedi soir, extrêmement tardivement, quelques gens de la maréchaussée avaient mis mon scooter sur le côté en me recommandant de cesser de conduire immédiatement et avaient entrepris de me ramener vers le poste de police. Mon Dieu, mais je crois que j'ai pas le droit de raconter ça. C'est pas grave. Ils avaient entrepris de me ramener vers le poste de police de manière à procéder à quelques examens plus approfondis de mon état. Et j'étais donc à l'arrière et un peu dépité, ça tout allait bien, hein.
Oui, mais
j'avais pas une angoisse folle, mais voilà.
C'est jamais agréable.
Et puis il y a la jeune femme qui était au volant, qui regarde dans son rétroviseur, elle me dit, j'ai l'impression de connaître votre voix. Je fais oui, c'est parce que c'est mon métier, madame l'agent, je suis comédien, je fais Stifleur. Je dis, oui, c'est ça. Vous faites Stifleur, c'est pas possible. Je fais oui, mademoiselle. Mais...
Et ça t'a sauvé alors.
Écoute, ça m'a sauvé.
On t'a ramené plutôt chez toi. Merci monsieur, bonne soirée.
Ça m'a sauvé, ouais.
Ouais, bah c'est des anecdotes qui sont bien, hein, oui, ça forcément.
Il y a prescription, c'était il y a 20 ans.
Et tu fais aussi, donc, mis à part tout ce qui est déjà beaucoup, un énorme CV, tu fais des adaptations. Et ça, je m'interrogeais justement, mais qu'est-ce qu'une adaptation en fait? Parce que tu fais des adaptations de films, hein, Aligi, The Beast, Rent Rock, Pour le meilleur, pour le pire, Le destin de Lisa en série, Kitchen Confidential, Entourage, Phénomène Raven, pour les ados, ça, Les Experts Miami, tu as fait quelques épisodes aussi, Opération Casse-Noisette, American Dad. Donc l'adaptation, c'est quoi? C'est adapter le texte en anglais.
Exactement, le traduire, en faire un texte français cohérent, avec des dialogues qui se répondent. Ça, c'est avoir un sens du dialogue, ça c'est très important. Et surtout, quand il s'agit de films en viande, on va dire, le lip sync qui soit cohérent, tenter de placer les B, les M, les V.
Ça prend énormément de temps. Alors.
Oh mon Dieu, mais ça c'est très très long. Et faut surtout donc s'arranger pour que le rythme de la phrase soit le même qu'en original.
Ouais.
que le truc veuille dire à peu près la même chose, que les blagues ne soient pas trop private jokes, c'est-à-dire une série américaine va faire des références à des personnages, à des événements que la culture francophone n'a absolument pas intégré. Donc il faut traduire sans dénaturer. Mmh. Et c'est un exercice extrêmement long, très très enrichissant personnellement parce que ça te fait travailler le ciboulot, hein. Le sens des phrases est comme un puzzle qu'il faut intervertir, changer. Tu passes en revue tout le vocabulaire de la langue française pour trouver le bon mot au bon endroit. Et puis voilà.
T'es parfait bilingue du coup forcément.
Ouais. Parfait, non, on n'est jamais parfait. En tout cas, ça va à peu près.
C'est d'ailleurs pour ça que des fois, moi, je regarde forcément des séries qui sont en VO, et quand des fois on les regarde après en français, la traduction n'est pas forcément la même, vu le labial qui doit être respecté, des fois des mots qui sont changés.
Et... Ouais. Si c'est bien fait. Si c'est bien écrit, bien joué, si en tant qu'auteur t'as compris ce que l'acteur était en train de faire et que par ton adaptation tu es parvenu à retrouver un rythme similaire, l'illusion elle peut être parfaite et ça a quelque chose de vertigineux. C'est très beau, c'est très agréable à voir quand c'est bien fait, mais c'est tu dis mais merde, c'est comme si c'était pas en français. Pour Ali G par exemple, on nous a dit, les gens de Studio Canal nous ont dit que la VF était mieux que la VO.
Ah oui, à ce point-là.
Là, on était aux anges.
Tu es fier de ton travail quand c'est comme ça, forcément. Ouais.
Alors là, je faisais que, c'était au tout début de ma carrière, j'étais simplement consultant pour le rap.
D'accord.
Donc Ali G, j'ai pas signé la totalité de l'adaptation.
OK.
C'est deux autres auteurs qui ont signé la totalité de l'adaptation, mais moi j'étais consultant pour les trucs de rap et là c'était. Donc là voilà, il y a de la monnaie qui est tombée du distrib.
Et tu es aussi encore une corde à ton arc, un petit clin d'œil à Hawkeye, œil de faucon. Tu es donc directeur artistique toi-même.
Absolument.
Donc et tu as fait entre autres donc Un Anglais à New York, la nouvelle version de Magnum PI, Jean-Claude Van Johnson.
Oh, ça c'est terrible.
30 Rock, ça doit être. Donc tu as travaillé avec Jean-Claude Van Damme.
Non, il n'a pas voulu venir au dernier moment et nous a éconduit. Oh, on était là, on était tout en foufelle, on s'était fait beau et tout ça, on l'attendait sur les escaliers. Et puis non, il n'est pas venu. Mais c'est sa voix habituelle française qui est venue, Patrice Baudrier.
D'accord. Donc quand tu fais de la direction artistique sur des séries, des films, donc là c'est toi qui chapeaute tout. Veux la voix intel, je veux.
C'est ça. Ouais.
C'est vraiment que niveau voix.
Ah oui.
Le directeur artistique ne gère que. Je sais pas. Moi, je suis un novice là-dedans.
Non, mais il convoque ses comédiens. Il estime que cette personne sera très bien sur ce rôle-là. Que ça peut donner lieu à des bonnes surprises. Et puis un petit peu le texte aussi, quand même. Il s'agit de superviser la cohérence du texte et la cohérence des réponses, des références, etc. À l'intérieur même de l'épisode ou du film et tout ce qui est mixage, côté artistique, supervision artistique du mixage et de l'enregistrement, ça c'est l'équipe son qui s'en occupe. Donc ça reste vraiment le texte, les comédiens et le jeu pour la supervision artistique.
Tu es très très complet. Et ainsi une dernière chose que t'en fais peut-être moins, t'es acteur, comédien, d'ailleurs c'est quoi la différence, c'est plutôt acteur, comédien, c'est tout comédien ou...
Acteur c'est quand tu passes à l'image, mais le comédien aussi, il est arrivé bien sûr.
Donc tu as joué, on l'a mis là tout à l'heure, la dernière, tu as joué dans Intouchable, où tu joues le fameux rôle de Patrick Juvet. Est-ce que tu as une anecdote à ça? Est-ce que ça a été facile? Parce qu'il t'a quand même vachement malmené, Omar Sy, voilà.
Ouais. Non, c'était pas... Si, le téléphone a beaucoup plus souffert que moi.
C'était un vrai en plus.
Au début, c'était un vrai. Et après, j'ai vu l'accessoiriste qui revenait avec info en disant Omar, arrête vraiment de le lancer si fort et si loin. Le truc revient en morceaux à chaque fois. Je crois même que pour la dernière prise, j'en avais plus. On a dû faire semblant.
D'accord.
Et voilà, c'était un très bon moment. Très bon moment, très, très paisible. Personne pouvait se douter sur ce tournage-là que ça allait être le succès qu'on connaît, donc il y avait beaucoup de déconstruction, énormément de professionnalisme. Les deux, là, Nakache et Toledano, c'est quand même des purs pros, ils ont le premier assistant le plus carré de l'univers, donc c'était très très décontracté, très détendu, très pro. Ils faisaient, non, mon souvenir, ils faisaient pas très beau. Et on était, ah si, on était dans l'ambassade des Pays-Bas.
Oh, oui, c'était dans une ambassade, ça avait été tourné.
Oh là là, avenue, la grande avenue, là, Faubourg Saint-Honoré, mon Dieu. Le roi n'est pas ton cousin, tu sais.
Oh là. Donc, tu regardes une chouette
ouais,
expérience.
Ouais, c'est une bonne journée. Puis tout le monde, extrêmement détendu, très sympa. Ouais. Une affaire qui roule. Non, une bonne expérience.
D'accord.
Pas très bien payé, mais c'est une bonne expérience.
Ah, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, effectivement. Et quelle est ton actualité, plus ou moins, en ce moment? Dans quoi on peut te voir?
Alors,
que tu peux dire, bien sûr,
ouais,
forcément.
Ouais, au mois de septembre. Mais voilà, un peu plus riche, on va dire, comme univers que ceux qui sont présentés sur les films en général.
D'accord.
Un truc un petit peu torturé. Disons. Les gens, ils ont des soucis, des problèmes, et puis à la fin, ça va mieux, puis ça va encore moins bien. Voilà.
Donc, pas trop. Sur des plateformes aussi ouais. En ligne, quoi.
Ah oui, c'est en ligne.
On peut, oui. Alors pour ne citer que quelques séries, justement, donc Hawaii Five-O, qui passe encore, je crois, en France, c'est sur M6, je crois, de mémoire.
Oui.
Medium, Son of Anarchy, Wanted, King and Maxwell, dans Breaking Bad, où tu joues le rôle de Badger. Perdu dans l'espace aussi, j'ai bien aimé le rôle de... Enfin, le personnage, c'est l'acteur Stephen Stobie. Mm-hmm. Je trouvais ça t'allait vraiment super. Et voilà, donc Perdu dans l'espace.
Ray Donovan. Tu connais pas ça, Ray Donovan?
Le nom, si.
5 ou 6 saisons, c'était pas mal.
Ok, mm-hmm. Chose encore à voir. Et puis The Boys, voilà que j'avais noté aussi à ce niveau-là. Mm-hmm. Y a certainement d'autres choses aussi qui vont arriver qu'on ne peut pas dire. Mm-hmm. Voilà, mais il y a certainement d'autres films aussi. Bah, faudrait que tout ait pris un peu de retard avec ce qui s'est passé aussi.
Certes.
Toi, ça te donne du travail, forcément.
Ouais, c'est... On fait rentrer des ronds dans des carrés. Avec grand plaisir, c'est super bien.
Eh bien, merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous en studio. Donc Jérôme Pauls, qui est la voix officielle de tous ces personnages que vous avez cités tout à l'heure, donc Jérémy Renner, Sean William Scott, Woody Harrelson, Yon Bernthal, mm-hmm. George Garcia, David Wenham, Matt Jones, Steve Zahn, entre autres. Voilà, il y a plein de choses. Merci beaucoup Jérôme.
Je t'en
Et,
prie.
Une petite surprise pour les auditeurs parce que tu vas être la voix. De Néo Radio.
Ah, mais oui. Voilà.
Les auditeurs le découvriront. parce que le claim de la radio, c'est Néo Radio, réinventons la radio. Voilà, comme ça, les auditeurs le découvriront. Voilà, merci.